On n'a pas toujours les mots pour dire les choses, mais elles sont parfois très à propos. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, et au verset 8, vous connaissez ce verset, ce merveilleux verset qui nous montre que Dieu ne change jamais. Hébreux 13, verset 8, vous connaissez cette parole, elle est extraordinaire, vous la comprendrez mieux à la fin de la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous allez avec moi dans le psaume 46. Nous allons faire trois lectures dans les psaumes. Psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Amen. Dans le psaume 36, il nous est dit ceci au verset 9. Il se rassasit de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Un petit peu plus loin, dans le psaume 110, au verset 7, il nous est dit ceci, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Amen. Est-ce votre expérience? Est-ce que vous buvez au torrent tout le long de votre marche avec Dieu afin que vous puissiez relever la tête? Car des fois on dit aux chrétiens, Jésus a dit, redressez votre tête car votre délivrance approche. C'est vrai, mais certains pourraient dire, mais je ne peux pas la relever parce que je manque réellement de force spirituelle. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce fleuve. Nous nous sommes mis d'accord avec notre frère Jansson Sinarinzi pour que les cantiques soient des cantiques qui nous rappellent que la présence de Dieu est un fleuve. Bien sûr, ce n'est pas de l'eau dans le sens naturel du terme, c'est la vie. Ce fleuve nous parle de la vie de Jésus-Christ, de sa vie même. Cette vie qu'il veut donner à chacun et qu'il veut donner en abondance, c'est une vérité. Les propos de notre frère Monsieur de Dieu expriment son profond désir de voir une église qui est envahie par cette louange qui est comme un fleuve dans l'église. Nous ne pouvons pas en déduire autrement. La vie de Dieu est une vie d'abondance. Nous l'avons entendu, la vie de Dieu est une vie d'abondance. Jésus, il est venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Mais si d'un côté, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, vous savez également ce qu'il est dit juste avant dans ce verset, c'est que le diable, il est venu pour nous voler tout ce que Dieu nous donnait au fur et à mesure. Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à garder ce que Dieu leur donne, ils n'arrivent pas à entretenir ce feu, ils ne veillent pas sur tout ce que Dieu leur demande et ils se font voler les choses spirituelles. D'ailleurs, c'est écrit, M. Blanc parlait dans la présentation de la Sainte-Seine, de cette couronne que l'on déposera au pied du Seigneur. Quelqu'un un jour me dit, mais pourquoi il faudra déposer la couronne au pied du Seigneur? Eh bien, parce que toutes les victoires qu'on aura eues, ça sera grâce à lui. Donc c'est tout à fait normal qu'on lui rende l'honneur en déposant cette couronne à ses pieds. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est qu'il est quand même dit que personne ne prenne ta couronne. Et on peut se faire voler les choses spirituelles. Et beaucoup de chrétiens, hélas, c'est vrai, ont perdu cette ferveur, ont perdu cet enthousiasme. Mon frère me disait, vous n'aviez pas à vous excuser. Il est certain que les chrétiens doivent être encouragés à louer Dieu. C'est écrit, exaltez-le, louez-le, célébrez-le continuellement. C'est écrit ou c'est pas écrit? Si c'était pas écrit, on pourrait trouver que c'est pas à propos. Souvent, ce qui n'est pas à propos, c'est qu'on dit mal les choses. Mais une chose est certaine, Dieu ne change pas, il est le même aujourd'hui. Et aujourd'hui, il veut délivrer et il veut bénir. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la cité de Sion. Si vous avez été à Jérusalem, vous savez bien qu'il n'y a pas de fleuve qui traverse Jérusalem. C'est bien la preuve que c'est une vie spirituelle qui doit traverser l'Église, qui doit traverser les cœurs des chrétiens. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon ? C'est écrit dans la Bible. Avez-vous goûté ? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi j'ai goûté en telle année que Dieu était bon. Mais il ne faut pas goûter, il ne faut pas souvenir que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Il faut réapprendre à goûter des choses spirituelles. Alors, il y a un fleuve, et c'est vraiment de ce fleuve que je veux vous entretenir ce matin. Le Seigneur, il est bon. Voyez comment on comprend mal les choses. Dimanche dernier, l'après-midi, j'ai prêché sur ce texte. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Afin, quelqu'un peut-il me dire la suite ? C'est pas complet, Madame Blanc, c'est pas complet. Vous avez fait trop la fête hier soir, Madame Blanc. On vous connaît, Madame Blanc, on vous connaît. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce, la miséricorde et le secours. Mais avec assurance, c'est pas parce qu'on a fait des progrès qu'on peut s'approcher avec assurance. On peut s'approcher avec assurance parce qu'on le connaît. On sait qu'il nous accueille. On sait qu'il n'est pas là pour nous juger. On sait qu'il n'est pas là pour nous blâmer. On ne pourrait pas s'approcher avec assurance que quand on a fait des progrès. Ça. Le Seigneur, il n'a pas dit, approche-toi, surtout quand tu fais des progrès. Approche-toi quand tu as passé une bonne semaine. Approche-toi quand tu t'es pas loupé dans ton travail. Approchez-vous avec assurance, parce que de son côté, vous pouvez être sûr qu'il a l'intention de vous aider, de vous bénir, de vous faire obtenir la grâce et la miséricorde. Et là aussi, le diable est un voleur qui essaie de nous faire, détourner les Écritures. Nous avons un Dieu qui veut nous bénir. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et nous sommes continuellement invités à nous approcher du Seigneur dans ce fleuve. Ce fleuve traverse les Écritures. Si vous avez lu la Genèse, ça commence par un fleuve qui coule. Si vous avez lu l'Apocalypse, ça termine par un fleuve qui coule. Ce qui veut dire que toute l'Écriture est traversée par le fleuve de la grâce. De la Genèse à l'Apocalypse, il nous est parlé de ce fleuve. C'est quoi ce fleuve ? C'est pour qui ce fleuve ? C'est un fleuve de guérison, de restauration, de délivrance, de salut, du baptême dans le Saint-Esprit. C'est un véritable fleuve dans lequel nous devons nous plonger pour obtenir la bénédiction. C'est pour ça que Jésus a été blessé, et qu'il a été brisé, et qu'il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Dans Ézéchiel, lorsqu'il est parlé de ce fleuve, il est dit « Tout être vivant qui est dans le fleuve » vivra partout où la rivière coulera. Partout où cette rivière coule, il y a la vie. Si dans une église, il y a la grâce de Dieu qui est débordante, et c'est vrai que la louange contribue énormément. Quand il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous continuellement par des cantiques, des psaumes », il y a une grande bénédiction qui coule lorsque le peuple de Dieu entre dans la louange. Lisez les psaumes et vous êtes continuellement encouragé à louer et à célébrer le Seigneur. Et il y en a un qui le sait, que ça détermine énormément la bénédiction de Dieu dans une église et dans une vie. Vous le savez, commencer une journée dans la louange, commencer une journée dans l'adoration, commencer une journée dans la reconnaissance, dans le remerciement, et vous verrez certainement que l'état d'esprit dans lequel vous allez vivre cette journée, chaque problème, vous pourrez les affronter en surmontant le mal par le bien, ainsi de suite. Oui, le diable est un voleur. Il cherche à dérober, à voler, à détruire, à égorger. Il n'a aucune bonne intention, vous le savez. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Et il y arrivera là où on ne veillera pas. Si on ne veille pas, si on n'est pas vigilant, vous le savez, autant que moi, vous avez lu les prophéties qui parlent de l'apostasie dans la fin des temps. C'est vraiment l'ennemi qui arrive à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est écrit. Ce sont des choses sérieuses. C'est pour ça qu'on ne peut pas badiner, nous amuser avec les choses spirituelles. Donc Jésus l'a dit, il l'a promis. On l'a lu dans Hébreux 13 que ça, il n'a pas changé d'avis. Et il a dit, voilà, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voulez-vous ces fleuves ? Qu'est-ce qui empêcherait que vous viviez dans ce fleuve ? Alors on va prendre quatre exemples. Quatre exemples qui vont nous permettre de comprendre si oui ou non nous avons besoin de nous rejeter dans ce fleuve, si nous nous en sommes éloignés. On va les prendre, je vais vous faire un rappel de situations qu'on connaît bien dans les Écritures. La première, c'est Naaman. Vous connaissez Naaman, le général syrien. Cet homme qui avait été un instrument entre les mains de Dieu pour mettre la défaite en Israël. C'est quelque chose d'un petit peu bizarre. Dieu va bénir un homme qui était l'ennemi d'Israël. Un homme intelligent, considéré, capable, honoré par tous les siens, etc. Et cet homme, un jour, il va découvrir qu'il a la lèpre. Vous voyez, comme quoi, quelle que soit la richesse, la renommée, la réputation, l'honneur qu'un homme peut avoir sur la terre, il est confronté souvent à cette échéance où il devra mourir, où il devra se préparer à rencontrer Dieu. Et par la grâce de Dieu, cet homme avait ramené des esclaves juives. Et il avait ramené une petite fille qui était la servante de son épouse. Et cette petite qui n'avait pas l'air traumatisée trop par cette affaire, va dire à la servante, en voyant que son général était lépreux, « Oh, si mon seigneur, il connaissait le prophète qui est à Samarie, eh bien, il le guérirait de la lèpre. » Et ça s'est remonté aux oreilles du général. Et bien sûr, il a fait toute une démarche avec un vrai protocole pour se retrouver chez le prophète. Vous connaissez cette histoire ? C'est une histoire merveilleuse. Il avait besoin de guérison dans son corps. C'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un dans son corps ce matin ? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça prête pas à confusion. Dieu veut guérir. Alors cet homme, bien sûr, il connaît pas l'évangile, cet homme, hein, et il sait pas comment on doit s'approcher de Dieu. Alors il part avec plein d'argent, plein d'affaires, et des chameaux, et des serviteurs. Il veut impressionner peut-être le serviteur de Dieu, je sais pas. Enfin, c'est pas, on va pas le critiquer. En tous les cas, il fait une démarche, il y va. Il y va quand même, et quand il arrive devant la maison du prophète, c'est même pas le prophète qui sort de la maison, il envoie son serviteur. Son serviteur. Déjà, quelle leçon ? Il envoie juste son serviteur, il lui dit, écoute, tu voilà, mon maître, il m'a dit qu'il te fallait te jeter cette fois dans le Jourdain, et ta chair deviendrait pure comme celle d'un enfant. Et Naaman, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce travail ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Enfin, moi, je change un peu les paroles. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Me jeter dans le Jourdain, n'importe quoi ? N'importe quoi. Il commence à s'irriter, et commence à penser déjà à repartir. Il n'a pas apprécié. C'était quand même un homme qui était continuellement honoré, continuellement adulé par tous les Syriens, parce qu'il avait amené la victoire dans son pays. Et là, le prophète ne sort même pas. Dieu est en train de commencer à lui enseigner certaines choses. Ce qui se passe dans chacune de nos vies, avec les contrariétés de la part des gens qui peuvent se présenter en face de nous, est-ce que vous acceptez les contrariétés ? Eh bien oui, il faut les accepter. Vous en sortirez pas bien si vous les acceptez. Il faut les accepter, c'est comme ça, il faut les accepter. Il y en a partout, on en a toujours, ça arrive, il faut les accepter. Et heureusement qu'il tombe sur un de ses serviteurs, qui est quand même plein de bon sens, et qui lui dit, mais écoute, mon général, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait ? Oui, alors on te demande quelque chose de facile, ben fais-le. Et il se range à son avis, quoi ? Il est en train d'apprendre l'humilité. Et une des choses qu'il faut apprendre ou réapprendre, vous entendez mes frères et sœurs, ou réapprendre, c'est l'humilité par rapport au bon sens des conseils qui sont contenus dans l'Écriture. Cet homme va faire dans toute la simplicité du monde ce que le serviteur du prophète va lui demander, de se plonger cette fois dans le Jourdain. Ça paraît complètement aberrant de se plonger cette fois, alors que lui dira, mais moi les fleuves de Syrie sont beaucoup plus propres que le Jourdain, qui est boueux. Si vous avez vu des photos du Jourdain, c'est toujours plein de boue. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous demande de nous plonger dans sa parole, le nombre de fois qu'il faut pour retrouver la grâce de Dieu, faisons-le. Et ne cherchons pas d'excuses. Et c'est vrai que si on demandait quelque chose de difficile, on le ferait. Si on disait à quelqu'un, je l'ai déjà dit dans une prédication, si on disait à quelqu'un, écoute, tu pars de Toulouse et tu vas à Paris à pied. À pied. Et Dieu te guérira. Est-ce que certains ne le feraient pas ? Sérieusement. C'est difficile, quand on est malade, de faire 700 km à pied. Oui ou non ? Et pourtant, des gens le feraient. Et vous leur dites, en toute humilité, de se plonger dans la présence de Dieu le nombre de fois qu'il faudra
pour obtenir cette guérison. Ils vont dire, oh non, mais j'ai pas le temps, moi, prier, j'ai mon boulot. Eh bien, voilà. C'est de l'orgueil. C'est un manque de simplicité. Que Dieu fasse qu'il mette sur notre route des gens intelligents qui nous rappelleront l'importance de rester plongé dans sa présence jusqu'à ce qu'il nous guérisse. Parce que la guérison, elle est peut-être psychique, psychologique, spirituelle, physique. Mais il nous arrive à tous d'être blessés, d'être brisés, d'être malades. Et si Dieu dit qu'il y a un fleuve dans lequel les hommes peuvent se plonger, car s'il y en avait un qui, pour moi, n'avait pas tellement droit à la grâce de Dieu, c'est bien cet homme qui avait quand même abîmé Israël. Il avait quand même amené la défaite en Israël. Vous savez, nous on est contents quand on lit que tel pays a eu la défaite contre Israël, parce que c'était le peuple de Dieu. Mais on voit des fois l'inverse. Et Dieu a béni cet homme, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et quand quelqu'un est humble, il lui fait grâce. C'est une loi perpétuelle, Dieu fait grâce aux humbles. Voulez-vous vous plonger dans la parole de Dieu? Avez-vous cette humilité? Vous manque-t-il cette humilité? Êtes-vous tombé dans cet orgueil? Ça peut arriver. Est-ce que on peut se faire piéger? Eh bien, faisons attention. Si le Seigneur ce matin vous interpelle pour retrouver cette humilité, peut-être que vous faites partie de ces gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas le temps de lire. Moi, j'ai pas le temps de prier. » Eh bien, je peux vous dire que Dieu vous a volé, le diable vous a volé votre bon sens. Croyez-moi. Il a commencé à détruire votre foi. Ce sont des choses sérieuses. Naaman avait besoin d'apprendre l'humilité. C'est pour ça que Dieu a commencé à lui montrer que c'était pas la peine qu'il soit en contact avec le prophète. Bien sûr que lui, il était tout le temps habitué au protocole. C'était vraiment quelqu'un. Lisez l'affaire et vous verrez. Il n'y a pas besoin de protocole. Soyons simples, mes frères et sœurs. Approchons-nous du Seigneur tel que nous sommes et plongeons-nous dans la parole de Dieu le nombre de fois que Dieu voudra. Le deuxième exemple, ce n'était pas un homme qui avait besoin d'apprendre la simplicité, c'était un homme qui avait besoin d'apprendre autre chose, qui avait appris quelque chose. C'est Bartimée. Vous connaissez Bartimée, cet aveugle qui, en plus d'être aveugle, était obligé d'être mendiant, ce qui nous prouve que quand on est aveugle, ou quand on redevient aveugle, parce que vous savez très bien que le Nouveau Testament est rempli d'exemples où Dieu parle à des hommes qui sont aveugles, à des chrétiens qui sont aveugles. Par exemple, celui qui a de la haine. Un chrétien qui a de la haine contre son frère, est-ce que c'est écrit qu'il est aveugle? C'est écrit ou non? C'est écrit. Que celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres. Donc, on voit bien, il y a des textes qui nous prouvent qu'un croyant peut tout à nouveau être dans les ténèbres, dans l'aveuglement. Et le résultat, c'est que un péché va rarement tout seul. Souvent, ils sont ensemble. Un homme qui est aveugle, il mendie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, malgré le fait qu'ils sont au courant qu'il y a l'abondance, il y a le fleuve, eh bien, ils mendient. Ils mendient un peu de joie dans certaines choses. Ils se remettent à aimer les choses du monde parce que, eh bien, ils mendient certaines choses. Ils ont oublié. On peut oublier. Là aussi, quand le diable détruit, c'est pour arriver de faire en sorte qu'on oublie les bénédictions qu'on avait reçues. Et il y a des chrétiens qui, tout à nouveau, sont aveugles et mendient. Ils vont trouver de la joie, ils vont chercher de la joie. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne sont pas saines, vous le savez. Il y a des choses qui sont bonnes, à partir du moment où elles sont saines, ça va. Mais il y a des chrétiens qui sont tout le temps, ils vont chercher de la joie, mendier de la joie dans le monde. C'est extrêmement révélateur que les choses ne vont pas bien. Où allez-vous chercher votre joie? C'est une question à laquelle vous devez répondre, c'est sérieux. Où elle est où votre joie? Ce matin, tiens, s'il avait fallu choisir entre le culte et le repas de tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez choisi? Comment? Oui. Madame Delavre, remplie de bon sens. Si on est là, c'est qu'on a déjà choisi. C'est vrai? Je crois que c'est vrai. Si on est là ce matin, c'est parce qu'on a déjà répondu. On a voulu honorer le Seigneur Jésus et trouver notre joie dans sa présence. Mais vous savez que c'est vrai. Il y a des chrétiens qui ont besoin de retrouver cette persévérance. Bartimée, il a dû surmonter la dureté des gens. Et pourtant, tout gravitait autour de la personne de Jésus. Et pourtant, quand cet homme a commencé à crier, parce qu'enfin, la chance de sa vie se présentait, on lui indique que Jésus va passer dans la rue où il est en train de faire ses affaires en mendiant. Il apprend cela. c'est la chance de sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait quand il entend cette foule? Il commence à crier, il sait que Jésus n'est pas loin, donc il crie. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Il a compris que Jésus était le fils de Dieu, puisqu'il l'appelle le fils de David. Donc c'était le fils du roi, donc il savait que Jésus était le roi. Il a compris, il est aveugle, mais il a compris. Et voilà que quand il crie, les gens à côté de Jésus vont lui dire, tais-toi, tais-toi. Mes frères et sœurs, sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas autour de nous des situations qui cherchent justement à nous faire taire? Et c'est pour ça que le fardeau de Monsieur de Dieu était à propos, dans le sens où je crois qu'il y en a des gens indifférents, des gens durs qui veulent nous empêcher de crier à Dieu, comme on l'a eu fait au début de notre conversion, où on a été vraiment au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vous souvenez des premières expériences que nous avons faites avec le Seigneur? Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'était pas embarrassé par toutes ces situations qui voulaient nous faire taire. On était comme Bartimée, on dit non, c'est une occasion, je dois la saisir. Et lui, il a crié encore plus fort. Alors bien sûr que ça n'a rien à voir avec les décibels, ça n'a rien à voir avec l'intonation de la voix. Crier, ça veut dire que la foi est plus forte que le doute, que la foi est plus forte que tous ces gens qui, ou ces situations qui veulent nous faire taire. Il y a un fleuve de guérison, il y est ce fleuve. Nous ne le voyons pas, c'est spirituel, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Ce fleuve, il a commencé au commencement et il se terminera. Et même dans le ciel, il y a un grand fleuve où il y aura la bénédiction de Dieu. C'est écrit. Et voyez combien de chrétiens sont comme Naaman. Ils ont besoin de retrouver cette humilité, sinon ils ne seront pas guéris. Combien de chrétiens sont comme Bartimée. Ils sont tout à nouveau aveugles, ils se sont fait piéger. Et il y a des gens, peut-être, faites attention aux gens qui vous entourent. Faites attention, même à des chrétiens. C'est triste à dire, c'est lamentable. Mais ça peut arriver que des chrétiens vous découragent. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, un chrétien tiède, il ne va pas forcément vous encourager à prier. Un chrétien mondain, il ne va pas vous encourager à persévérer. Il n'y pensera même pas. Mais peut-être sans s'en rendre compte, il va faire le jeu du diable et vous essayer de vous entraîner dans sa tiédeur. Et Bartimée, lui, devait vaincre par rapport à sa cécité, par rapport à sa mendicité. Il devait vaincre justement cet obstacle, apprendre, réapprendre à crier. Il l'a dit, Jésus, il fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Le troisième exemple, c'est la Syrophénicienne. Vous savez cette femme qui va apprendre que Jésus passe dans la région où elle est. Il est très loin là de Jérusalem, il passe justement en Syrie et il est là, il est conduit par Dieu. Et cette femme qui a une fille tourmentée par le démon va se rendre dans la présence de Jésus, mais voilà que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Vous savez, s'approcher de Dieu, c'est une grande bénédiction, mais il y a des obstacles. Et cette femme, lorsqu'elle va demander la bénédiction, elle va faire ce qu'il faut. Jésus ne lui répond pas. Ça ne vous arrive pas que Jésus ne vous réponde pas? Jésus ne va pas lui répondre. De surcroît, les apôtres commencent à dire à Jésus, écoute, renvoie cette femme, elle crie, elle nous fatigue. Renvoie-la. Le témoignage des chrétiens. Quel témoignage! Nous devrions avoir honte toutes les fois où par notre témoignage. Et vous savez, c'est arrivé. Dernièrement, j'ai vu deux sœurs là, qui se chipotaient à côté d'une inconvertie. Ça ne m'a pas plu du tout. D'ailleurs, elles auront affaire à mes conseils, ces sœurs. J'ai trouvé ça minable. Combien on peut, sans s'en rendre compte, ne pas penser aux âmes qui sont en train de découvrir l'Évangile? Que c'est triste. Mais voyez, ce n'est pas nouveau en plus. Mais cette femme, elle devait affronter ce que peut-être certains doivent affronter pour se retrouver dans le fleuve de Dieu. Cette femme, elle souffrait parce que sa fille était possédée. Peut-être que vous ne souffrez pas à cause de vos souffrances, peut-être que vous souffrez à cause de la souffrance des autres. Ça, il faut s'en décharger, il faut apprendre à se décharger, parce que c'est extraordinaire d'avoir le fardeau des âmes, mais c'est très grave de ne pas savoir s'en décharger. Mais cette femme, elle est là, elle est au contact de Jésus, elle le sait, elle l'a appris. Quand vous lisez les évangiles, il y avait des gens de Syrie qui étaient descendus à Jérusalem, dont ils avaient dû le lui raconter. Et cette femme, elle est là, et quand Jésus va enfin lui répondre, il va lui faire un reproche qui frise l'insulte, vous le savez. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous connaissez cette affaire? C'était une insulte. Il était en train de la traiter de petit chien. Il était en train de dire, moi, écoute, je suis venu. Et c'était cohérent avec le plan de Dieu. Je suis venu pour mon peuple, pour Israël. Toi, tu es une étrangère. T'as pas droit à la bénédiction. Elle aurait pu claquer les talons et dire, mais je me suis trompé. Dieu a laissé cette histoire dans la parole pour nous enseigner qu'il faut réapprendre à persévérer, même quand les gens autour de nous n'ont pas le meilleur témoignage, même quand les chrétiens nous déçoivent, même quand une parole du Seigneur Jésus dans la Bible est difficile à comprendre. Quelqu'un me disait dernièrement, moi je ne comprends pas pourquoi Dieu a créé l'enfer. Bien sûr, ce n'est pas le thème de la prédication de ce matin, mais même si vous ne comprenez pas certaines choses, ne vous démobilisez pas dans votre démarche et persévérez. Même si vous ne comprenez pas une parole du Seigneur, Jésus a éprouvé cette femme, il peut vous éprouver. Acceptez que Jésus vous éprouve pour aller plus loin dans ses voies. Cette femme, elle ne va pas faire ni une ni deux, elle va faire ce qu'il faut, elle va se prosterner à ses pieds, elle va se mettre à genoux et elle va l'adorer. Et elle va dire, écoute Seigneur, c'est vrai, je suis une étrangère. J'avoue, je suis une étrangère. Mais les chiens, elle répond bien. Elle a compris. Les chiens, les étrangers, ils ont droit aux miettes. Et Dieu va bénir cette femme. Alors vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas des chiens. La Bible parle des chiens dans le sang de gens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Les rétrogrades peuvent être catalogués de chiens, c'est pas très gracieux. J'en conviens, parce que l'Apocalypse dit « dehors les chiens », fait allusion à tous ceux qui ont connu Jésus-Christ et qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. C'est l'image des rétrogrades, qui est une image terrible, mais que Dieu a utilisée certainement pour interpeller les gens également. Et cette femme, elle va obtenir la délivrance de sa fille qui est possédée, parce qu'elle a persévéré. Oui, il y a un fleuve de guérison, même pour les gens dans nos familles qui sont complètement liés par la puissance des ténèbres. Et Dieu est capable de délivrer les gens dans nos familles. Vous n'en avez pas des gens dans vos familles qui sont complètement liés par les ténèbres? Est-ce que Dieu peut les délivrer? Eh bien, mes frères et sœurs, nous jetons-nous dans ce fleuve. Cette fille, je ne sais pas combien de kilomètres elle était, j'en sais rien, cette petite. Mais à l'instant même, elle a été possédée parce qu'elle s'est jetée dans ce fleuve. Elle avait compris. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons compris? Sérieusement, malgré le fait que nous soyons venus et que c'est vrai que nous préférons le culte, même un repas de famille, on peut concilier les deux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Malgré le fait que nous avons choisi de venir dans la maison du Seigneur parce que c'est quelque chose de merveilleux pour nous, est-ce que nous sommes conscients également que nous plonger dans le fleuve de guérison, dans le fleuve de délivrance, est une expérience qui doit être renouvelée? Il est le même. Ce Seigneur Jésus qui ce jour-là a délivré cette petite possédée du démon est le même au milieu de nous ce matin. Il est là pour délivrer. Et nous ne devons pas nous fier à tout ce que nous voyons autour de nous. Je le répète, un chrétien qui a mauvais témoignage, le silence du Seigneur, une parole du Seigneur que nous n'avons pas encore comprise, c'est pas grave. Peut-être que vous entrez pour la première fois dans cette église et à la place qu'on vous parle de bénédiction, on va vous parler de repentance. Demain matin, avec ce que j'ai préparé pour l'enterrement, je ne suis pas sûr que tout le monde va bien comprendre. Mais ils sauront que Jésus est mort pour pas qu'ils aillent en enfer. Ils le comprendront. Ils entendront peut-être, ils voudront autre chose, mais ils entendront la parole qui pourra les sauver. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. On a besoin d'entendre ce que Dieu veut pour que nous nous retrouvions dans l'abondance spirituelle. Oui, il y a un fleuve de délivrance, il faut apprendre à persévérer. Ou est-ce que vous dites, ah non, moi je ne prie plus, moi j'en ai marre, j'en ai assez, je suis découragé. Eh bien, vous n'obtiendrez rien. Vous resterez à 52 mètres du fleuve, vous verrez peut-être les autres se réjouir dans le fleuve et vous n'y entrerez pas. Et comme disait monsieur de Dieu, je ne sais plus, oui, Dieu ne vous y poussera pas. Il ne vous y poussera pas. Ne vous attendez pas qu'il vous pousse dans le dos pour vous jeter dans l'eau. On l'a eu fait, ça, nous. On l'a eu fait une fois, ça, moi. On m'a attrapé, on m'a jeté dans l'eau. C'était intelligent. J'étais malade toute la semaine. J'étais jeune à l'époque. Mais Dieu ne vous poussera pas. il ne vous poussera pas dans le fleuve de la grâce. C'est vous qui avancerez, qui réapprendrez. C'est nous qui choisirons de dire oui, j'ai besoin de réapprendre l'humilité. Penser que Dieu ne pourrait pas me bénir, quelle idiotie. Penser que Dieu ne m'aime pas parce que j'ai passé une année 2011 difficile, parce que j'ai pas fait beaucoup de progrès. Oh, le Seigneur, il doit être en colère contre moi. Non, non, j'ai pas droit à ce fleuve. Il va me punir pendant un an. Moi, j'ai pas lu ça dans la Bible. Moi, j'ai lu que quand on se repent, au même instant, le Seigneur y pardonne. Moi, ça, je l'ai lu. Et le Seigneur de la Bible, il bénit au même instant. Vous avez passé une mauvaise année? C'est possible. Et alors? Est-ce que Dieu peut vous bénir? Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a toujours ce fleuve? Qu'il est le même? Le dernier exemple, c'est, vous savez, le chef de la synagogue. Vous voyez, on passe d'une étrangère à un général syrien, à un aveugle, et là, on est maintenant un religieux qui n'a pas eu honte de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. C'était le chef de la synagogue, et voilà que cet homme, sa fille est en train de mourir. Elle a 12 ans, la petite. Elle a 12 ans, sa fille est en train de mourir, Jésus est en train de traverser le village. Lui aussi, il se dit, je sais ce qu'il faut faire. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va peut-être courir. Moi aussi, je me suis fait des films de ce brave Jaïrus. Comment il a dû s'approcher de Jésus. Et voilà que tout en y allant, il va s'approcher et il va dire, voilà, ma fille est à l'extrémité, ma petite fille, elle est en train de mourir. Seigneur, viens, fais quelque chose. Et Jésus l'accompagne. Et voilà que Jésus est arrêté par une autre femme qui a une perte de sang. Et ça va prendre un temps fou. Et voilà que pendant que cette affaire se produit, Jaïrus, il est là, il attend, il regarde la montre. Hein? Il n'y avait pas de montre? C'est une façon de parler, monsieur de Dieu. Il n'y a pas de façon de parler. Le temps passait. Et voilà que quelqu'un vient dire, écoute, c'est plus la peine. N'importune pas le maître, c'est pas la peine. Ta fille, ta fille, elle est morte. Et Jésus va dire à cet homme, il va lui faire un discours, je crois, de 2h15. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne crains pas. Crois seulement. Cinq mots. Cet homme devait vaincre la crainte. Et je suis convaincu que c'est ce qui peut arriver lorsque nous voyons des situations qui meurent autour de nous, lorsque nous voyons certains de nos enfants qui rétrogradent, lorsque nous voyons un conjoint qui n'est plus avec Dieu, lorsqu'une femme qui est convertie et qui ne voit pas, et qui voit son mari là depuis 20 ans, et qui ne se convertit pas, qui est mort. Elle doit vaincre la crainte. Mes frères et sœurs, les chrétiens, ils doivent vaincre la crainte. Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait ce qu'il doit faire. Il a dit 5 mots, ne crains pas, crois seulement. Et je ne sais pas ce qu'il a pensé, je ne sais pas ce qu'il a pensé cet homme. Mais ça ne fait rien, il était à côté de Jésus et Jésus a été jusque dans sa maison. Qu'est-ce que c'est que nous devons vaincre, nous? Mon frère, est-ce que c'est l'orgueil qu'il faut tout à nouveau bannir de notre cœur? Parce que nous ne nous plongeons pas dans la parole de Dieu, et utilisons l'exemple de Naaman. Est-ce que c'est cette dureté des autres, comme cet aveugle qui était là, qui a failli passer à côté? Et je crois qu'il faut que, oui, cette exhortation aux jeunes, aux moins jeunes, à tous les jeunes, de louer, de continuer à célébrer le Seigneur, que rien ne vous arrête. Bartimée, il a failli passer à côté. Il a failli passer à côté. Et combien peut-être sont passés à côté? Tout ne nous est pas rapporté dans la Bible. Mais combien passent à côté? Nous-mêmes, combien de fois sommes-nous passés à côté de belles bénédictions que nous aurions pu faire déjà dans le cours de cette année? La Syrophénicienne, elle a dû persévérer. Jaïrus, il a dû bannir la crainte. Il y a des gens qui sont morts autour de nous, de plus en plus. C'est pas vrai? Il y a des gens morts, mais est-ce que Dieu peut les ressusciter? Je parle des gens spirituellement morts. Vous qui avez un enfant inconverti, est-ce que Dieu peut l'amener à la vie en 2012? Est-ce que Dieu peut vous dire ce matin, ne crains pas, crois seulement? Est-ce que Dieu peut te dire ce matin, redeviens humble comme un petit enfant? Jésus l'a dit aux apôtres, si vous ne devenez comme des petits enfants, si vous ne devenez pas humble comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais ils étaient déjà rentrés, ils étaient sauvés, mais ils n'entraient pas dans les bénédictions qui étaient liées, par exemple, aux enfants. Et si nous ne redevenons pas humbles comme des petits-enfants, nous n'entrerons pas dans les bénédictions de Dieu. Si nous ne persévérons pas, si nous ne bannissons pas la crainte, nous passerons à côté. Oui, il y a un fleuve. Le fleuve, il y est. Que le nom du Seigneur soit béni. Que rien ne vous décourage. Que rien ne vous arrête. Les silences du Seigneur, le mauvais témoignage des chrétiens, c'est triste à dire. C'est certainement la honte la plus sévère pour un pasteur d'avoir des chrétiens qui rendent de mauvais témoignages. J'aurais tellement de choses négatives à dire, je ne pense pas que c'est intelligent. Mais vous savez que c'est vrai, tous vous le savez. Mais qu'importe ces choses, il y a un fleuve. Et ce fleuve, il y a la vie dedans, c'est Jésus-Christ. On ferme les yeux un instant. Oui, mes frères et sœurs, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ne voudriez-vous pas y regoûter? Ne voudriez-vous pas regoûter à la guérison, à la délivrance, à la résurrection, vous qui avez des enfants ou des conjoints inconvertis? Ne croyez-vous pas que cette parole de Dieu, elle est suffisante? Mon frère, ne crains pas, crois seulement. Les miettes, il n'y a plus de miettes, ça n'existe plus. Depuis que Jésus est mort sur le bois de la croix, il y a du pain en abondance. Il n'y a plus de miettes, c'est comme ça. Il y a du pain en abondance. Et celui qui boit au torrent, il relève la tête. Oui, il y a un fleuve. Plongez-vous-y 5 fois, 10 fois, 50 fois. Il n'y a pas de chiffre. C'est un besoin jusqu'à ce que la guérison soit là. Oui, mes frères et sœurs, il est un fleuve, oui. Il est un fleuve. Est-ce que le pianiste peut venir, s'il vous plaît? Nous restons recueillis. On va juste rechanter ce cœur, on le connaît par cœur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu.